Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main discrète et légère caresse. Avant de s'endormir, le contour de ses seins. Des molles avalanches mourantes, elles se livrent aux longues pâmoisons et promènent ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons.
Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, black métalleux, black métalleuse, curieux, curieuse, confinés en tout cas, c'est une certitude. Bienvenue donc dans le masque et l'enclume en version confinée, le masque et le confinement, samedi 25 avril. On en est, je crois, à la 6e émission en mode confiné, 6e ou 5e, je ne sais plus. Enfin bref, ça fait un petit moment. Donc je vous rappelle le principe de l'émission en ce moment, donc une émission enregistrée en léger différé à la maison en mode confiné. Est consacré donc aux figures emblématiques, aux pères fondateurs du black metal. Donc on a exploré pas mal de groupes. Et puis la semaine dernière, on était en Allemagne avec les rois mages allemands Destruction, Sodom et Creator. Donc on a fait, je crois, dans l'ordre Celtic Frost, ensuite Bathory, après Venom ou vice-versa, ensuite Merciful Fate. Hier, c'était dimanche. Pas du tout, je prends beaucoup de drogue, non, non. Et la dernière émission, c'est ça que je voulais dire, non, la drogue c'est mal, hein. Surtout quand il n'y en a plus, n'en prenez pas. De toute façon, c'est très compliqué en mode confinement. Allez, on revient à la dernière émission, c'était sur les groupes allemands qui ont donné un petit peu l'impulsion à la scène black metal. Il y avait un petit débat aussi, première vague, deuxième vague. Je vous ai expliqué que pour moi, il n'y avait pas vraiment de différence, enfin, même si effectivement il y a eu un regain d'intérêt par l'arrivée de groupes norvégiens au début des années 90, et notamment un regard d'intérêt auprès des médias. Pour autant, la scène, elle existait, elle était là, elle était un peu plus masquée, cachée. Donc voilà, on a fait donc 6 émissions, je dirais, ensemble, ou moins, 4, 5, 6, 5, je pense que je compte très mal, 5, c'est la 6e aujourd'hui, 6 émissions, on va faire 5 émissions, je vais arrêter, je bug un peu le confinement, ça me rend fou en fait. Et voilà, on a passé beaucoup de temps en Europe en fait, et il se passait quand même des choses ailleurs, et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, à titre exceptionnel, enfin pas du tout, de vous emmener en Amérique, Amérique du Nord et Amérique du Sud, pour voir ce qui s'y passait dans les mêmes époques, hein, entre 1983 et 1988-89, ce qui se passait au niveau de la scène extrême, et je vais vous faire découvrir ou pas quatre groupes qui, pour moi, sont très importants dans l'histoire du black metal. Deux d'Amérique du Sud, deux d'Amérique du Nord, comme ça, il n'y aura pas de jaloux, et Trump sera satisfait, ou pas, d'ailleurs, je ne pense pas, d'ailleurs. Donc, on va débuter avec deux groupes, d'ailleurs, localisés dans le même pays. Je suis pas très, très original. On commencera donc par Vulcano et Sarcophago, et ensuite, on ira aux États-Unis pour découvrir les débuts de la discographie. Est-il nécessaire de les présenter de Slayer? Et puis, on remontera encore un petit peu plus au nord pour aller s'intéresser à Blasphémie. Donc voilà, on débute tout de suite par nos amis de Vulcano. Alors, ce n'est pas vraiment nos amis peut-être pour vous. Enfin, moi, c'est mes amis, mais vous ne les connaissez peut-être pas. Donc, c'est l'occasion de les découvrir. Je vais vous faire découvrir un live officiel qui était sorti d'ailleurs avant leur premier album. Ça date de 1985. Ça s'appelle Live. Donc, vous allez avoir droit à Witch Sabbath, Prisoners from Beyond et Fold Angel. Pas Fold Angel, Fallen Angel. Quel anglais. J'aurais pu le faire en brésilien aussi. Bon, allez, je vous laisse avec Vulcano. Et après, tonton Jean-Pierre vous raconte un petit peu l'histoire de ce groupe qui est vraiment pas très connu et pourtant qui mériterait de l'être. Ciao, à tout de suite.
Where are the prisoners in this strange war?
Vous êtes bien calé sur le 99.5 de Radio Campus Tour ou www.radiocampustour.com. Voilà, à l'instant, Vulcano dans l'émission Le Masque et l'Enclume, Le Masque et le Confinement. Alors, Vulcano, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça vient du Brésil. Le groupe est né à Santos au début des années 80. En 81, les gars se connaissaient depuis un moment, hein, depuis 78. Il y a deux personnes qui sont vraiment à l'origine du groupe, hein, Santos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la périphérie de Sao Paulo. Voilà. Donc, les deux fondateurs, c'est Zema Paul Magrão et Carly Cooper, voilà, qui fondent le groupe. Groupe assez extrême, hein, vraiment dans la veine métal la plus heavy possible et vachement rentre-dedans. Très très peu de moyens au début. Ils vont enregistrer un première démo qui s'appelle Om Push Namath. Et à la différence de pas mal de groupes, eh bien, ils vont l'enregistrer en portugais. Alors, l'album a du mal à se faire parce qu'ils ont vraiment du mal à stabiliser un line-up. Ils perdent leur batteur. Du coup, ils galèrent un petit peu et ils font pas grand-chose jusqu'à 84. La première démo était sortie en 83, où ils vont sortir une deuxième démo qui s'appelle Devil on My Roof. Donc, ils ont ensuite eu l'opportunité d'enregistrer un album live en 85. Ils vont recommencer à avoir un petit peu de notoriété. Ils vont sortir de la ville de Santos. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, personne ne s'intéressait dans l'univers très auto-centré, États-Unis, Europe, à ce qui se passait en Amérique du Sud. Il n'y avait pas grand-chose qui arrivait à sortir vraiment du Brésil. C'est ça que je voulais dire, en fait. J'ai un petit peu du mal, mais voilà. Donc, ce live est hyper puissant. Et puis, ils vont ensuite enregistrer leur premier album studio, qui est celui qui les a fait remarquer, enfin, qui moi, me les a fait découvrir, qui s'appelle Bloody Vengeance, en 1986. Je ne vous cache pas que j'ai un tout petit peu galéré pour le trouver à l'époque, et je l'ai découvert avec un petit peu de retard. Du métal assez extrême, assez rentre-dedans, vraiment, vraiment énorme. Et ils ont une grosse prod, une meilleure prod. Ils vont commencer à vraiment être connus sur la scène du Brésil. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les gars de Sepultura les citent souvent dans leurs influences. Voilà. Et ensuite, ils vont continuer leur activité. Ça va être nettement moins intéressant. Ils vont sortir un autre album qui va s'appeler Anthropophagie en 87 and Who Are the Truth. Voilà. Mais c'est moins intéressant. Le groupe existe encore, mais si vraiment vous voulez avoir une belle photo de ce qu'était la scène extrême d'Amérique du Sud, vous pouvez vous intéresser au live de Vulcano et son premier album studio. C'est d'ailleurs celui que vous trouverez, je pense, le plus aisément, disponible même sur les applis de type Spotify ou autre pour les gens qui sont en total dématérialisé. Voilà, l'album, je vous redonne son nom, peut-être, ou pas. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, je vous le donne ou pas. Donc l'album s'appelle, comment il s'appelle? Eh bien, c'est un mystère. Non, je plaisante. Bloody Vengeance, voilà. Et on va enchaîner avec un deuxième groupe brésilien qui s'appelle Sarcophago. Et je vais vous donner un petit aperçu de la brutalité dont ils étaient capables de faire preuve. Avec trois titres ou deux titres, je ne sais plus ce que j'ai choisi. Trois titres, deux titres, il faut vraiment que je me concentre. Ça ne me réussit pas de faire, et là en montant je pense bouger ma feuille, mais c'est pas grave, je vais tout garder, il n'y aura pas de bêtisier dans cette émission, il n'y aura qu'une seule prise à chaque fois, donc je vais tout garder. Le groupe Sarcophago Inri, leur premier album, ça doit dater de 87. On va s'écouter une petite intro me semble-t-il, et ensuite on va s'écouter Satanic Lust, Desecration of Virgin, Nightmare et Inri. C'est un sacré programme que je vous propose tout de suite, donc les Sarcophago, et je vous en parle après. Et voilà, comme vous avez pu le remarquer, il n'y avait pas d'intro, donc c'était le sarcophage. Oui, sarcophago, c'est un mot portugais et espagnol pour désigner un sarcophage. Donc le groupe Sarcophago s'est formé en 85 à Uberlândia, dans le Minas Gerais. J'aime bien cette ville parce que c'est la ville d'où sont originaires mes enfants, enfin, trêve de plaisanterie. Donc ils sont à l'époque très très inspirés par Bathory, Celtic Frost, Slayer et un peu aussi par le punk. Donc ils voulaient, et ils l'affirmaient à l'époque, vouloir faire la musique la plus agressive possible. Ils vont d'ailleurs être signés, petite parenthèse, par Cogumelo Records, qui est la boîte de prod qui avait la cote à l'époque au Brésil, puisqu'elle a signé entre autres Sepultura, avant qu'ils signent chez Roadrunner. Alors, le groupe va vraiment décoller quand Wagner Lamounier va les rejoindre. Alors, Wagner Lamounier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien membre de Sepultura. Il est parti de Sepultura en 85, en mars, je crois. Il rejoint le groupe Sarcophago. Alors, il a jamais été crédité, il a jamais enregistré, enfin, il a jamais enregistré quoi que ce soit avec Sepultura. Pour autant, c'est lui qui avait composé, notamment, pour ceux qui connaissent, les paroles de la chanson Antichrist pour le EP Bestial Devastation. D'ailleurs, Antichrist, c'est le pseudo qu'il va prendre pour officier dans Sarcophago. Donc, ils vont sortir assez rapidement un premier album. Alors, à l'époque, le line-up, c'était Butcher à la guitare, Antichrist, donc notre ami Lamounier au chant, Incubus à la basse et Leprous à la batterie. Juste avant l'enregistrement de l'album, ils vont se séparer de leur batteur et vont prendre un batteur qui s'appelle Didi Crazy. Bon, après ça, vous n'en avez peut-être pas grand-chose à faire. Premier album, Inri, un album assez pionnier dans le genre pour plein de trucs, notamment parce que c'est les premiers à foutre des blast beats. On n'avait jamais entendu ça. Donc voilà. Et surtout aussi, au-delà de la dimension musicale où ils sont vraiment à la pointe de l'apocalyptisme, ils vont développer le corpse paint. C'est les premiers à développer du corpse paint, blouson en cuir, ceinture avec pointe de métal. Et voilà, corpse paint. Donc ils vont comme ça, ça va inspirer tout ce que vous connaissez après sur les Norvégiens et leur corpse paint. Donc c'est la première pierre, je pense, importante de l'imagerie corpse paint, et aussi musicalement c'est quand même plutôt pas mal. Donc pour autant ils sont quand même un peu cultes, hein, ils sont connus au-delà du tout des frontières brésiliennes, voire même connus en Europe assez pas mal beaucoup. Pour autant, le leader Lamounier n'est pas satisfait, il n'est pas content de la prod, il n'est pas content de la qualité des enregistrements, donc du coup il se passe quoi? Le groupe va splitter. Le groupe va splitter après la sortie d'Inri, avant de se reformer un petit peu plus tard avec un line-up complètement différent pour un deuxième album qui est aussi très très connu. Alors un album qui va beaucoup plus s'éloigner du black stricto sensu. Ils vont intégrer des influences un peu crossover trash. L'album est surtout connu pour la polémique qui est liée à sa pochette, puisque sur l'album en question, Rotting, on voit la faucheuse en train de lécher ce qui semble être la faucheuse de la mort, hein, évidemment, ce qui semble être la figure du Christ. Voilà. Donc, à partir de cet album-là, à partir du deuxième, là, le Rotting, ça va être un tout petit peu moins intéressant. Enfin, ça va plutôt être death trash. Donc, on va moins, nous, le retenir pour notre anthologie des pères fondateurs du black metal. Voilà. Donc, on va clore la partie Amérique du Sud de l'émission. Et on va passer maintenant en Amérique du Nord avec un groupe que moi, j'estime très important aussi dans l'émergence du black metal, ne serait-ce que pour l'imagerie aussi, et puis les textes abordés. Alors il y en a qui vont me dire « Ouais, non, ça n'a rien à voir, c'est Slayer. » Déjà, ceux qui disent que ça n'a rien à voir, je m'en moque un peu parce que c'est moi le patron. Et c'est vrai que je fais des choix qui sont peut-être parfois un peu arbitraires pour certains. Enfin, c'est mes choix, voilà. Donc pour moi, Slayer, au moins les deux premiers albums, c'est hyper important pour le black metal. Est-ce qu'il est besoin de présenter Slayer, c'est-à-dire qui a arrêté sa carrière il y a quelques temps, l'année dernière, de mémoire? Est-ce que c'est besoin? Je sais pas, je pense pas, hein, vous connaissez tous Slayer. Je vous invite quand même à vous intéresser vraiment au début du groupe, qui était vraiment à l'époque, en 83-84, qui était vraiment c'était vraiment la classe à Dallas. Et j'ai choisi pour vous en prime time, en exclu Lulu, des morceaux du live Undead avec que des hits que vous connaissez tous, Black Magic, Die by the Sword et Captor of Sin. Voilà, c'est parti pour 11 minutes 34 de petit bonheur. Une petite Madeleine de Proust, ça va, enfin pour ceux qui écoutaient Slayer à l'époque, voilà, ça va vous rappeler, je pense, de très 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 bons souvenirs. Je pense pas que je vous détaillerai enfin vous connaissez tous Slayer, donc je pense pas que ça soit la peine de s'étendre sur ce groupe-là, groupe mythique après en termes de trash, mais là je pense que les débuts, ça a clairement influencé plein de gens dans l'univers black metal. Allez, Slayer, Live and Dead, on est en 84-85 de mémoire, voilà, direction l'Amérique du Nord.
Only the words of the Lord, down on the soul. entitled Captor of Sin.
Confinés parlent aux confinés.
Pour une raison indépendante de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la totalité de nos programmes.
Radio confinée, mais radio en activité.
Retrouvez à l'antenne podcasts et contenus originaux. Alors soyez patients et restez chez vous, on s'occupe de tout.
Et voilà, c'était donc Jeff Hanneman, Kerry King, Dave Lombardo et Tom Araya, à l'époque quasi au meilleur de leur forme, je dirais, non presque, puisqu'après ils ont quand même fait des très belles choses. N'oublions pas le Rain in Blood. Et là c'est l'horreur, parce qu'en fait j'ai vu que l'heure avait complètement tourné, et on est presque à la fin de l'émission, donc je vais pas du tout pouvoir traiter Blasphemy comme je voudrais le traiter, parce que si je le traite dans le temps qui me reste, ça va être gâché. Donc je sais qu'en plus il y a des gens ici à Campus, Saül, qui sont vraiment fans, donc je m'attellerai à ma tâche la semaine prochaine, je reviendrai donc sur le parcours de Blasphemy et d'autres groupes, du coup, ma thématique sera un tout petit peu escamotée, mais c'est pas bien grave. On va se quitter, se donner donc rendez-vous la semaine prochaine, on sera encore en mode confiné. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais le masque va changer d'émission, d'horaire, l'émission, l'horaire de l'émission. Le changement d'horaire de l'émission est prévu après le confinement. On va basculer sur normalement le mardi 22-23, mi-mai, donc ça va être plus chouette, je pense. Voilà, donc ça va être classe, ça va me faire très plaisir de vous retrouver et de retrouver les studios de campus. J'ai quand même dit pas mal de conneries aujourd'hui. Et il me reste un petit peu de temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit coup de Slayer, hein, histoire de finir bien. Restez chez vous, prenez soin de vous, pétez pas trop les plombs, les gestes barrières, entraînez-vous, le port du masque, entraînez-vous, customisez vos masques, hein, mettez-y des belles effigies de groupe, voilà, n'hésitez pas. Ça va être un outil fashion, je pense, ça va devenir glam, le masque, d'ailleurs. Allez, ciao, et puis à la semaine prochaine. Thank you.